Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousues main, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, nationalisme et populisme, l'autre visage de l'Europe. Une série d'Alain Lefkovitch, réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a l'échéance des prochaines élections, les 1000 questions qui nous traversent et les peurs qui nous habitent. Il y a ce bulletin qu'il faudra dimanche glisser dans l'enveloppe et surtout, il y a ce chiffre que l'on ne veut pas entendre, que l'on préférerait ne pas lire, ces 25% de voix qui en France iraient à l'extrême droite. Alors il y a aussi une envie de comprendre, d'explorer, de s'obliger à entendre ou au moins à écouter ce qui émerge autour de nous. Et surtout, au-delà du constat de ce virage nationaliste européen, rappeler d'où vient l'extrême droite et ce que demeurent ses discours, des discours qui heureusement sont encore loin de parler d'une seule voix. Alors pour commencer, les personnages. L'un qui déteste Trump, l'autre qui le félicite, des nationalistes patriotes alliés à des régionalistes séparatistes, l'un qui revendique l'étatisme, l'autre qui ne jure que par le libéralisme, et des ultra-catholiques qui siègent à côté de laïcs revendiqués. Ensuite le décor. Un rassemblement politique hétéroclite, l'autre comme seul ennemi commun, Bruxelles, Strasbourg, Coblence, les bureaux du Parlement, la voix de Mitterrand et la promesse d'horizon bien sombre. Aujourd'hui, quatrième épisode, Jean-Yves Camus, à l'affût des dérives politiques, a du pain sur la planche pour un certain temps.
Ce qui me paraît certain, c'est que ce phénomène n'est pas prêt de disparaître et qu'il y a une forme de combat politique contre ces populismes de droite radicale qui me semble assez vain et qui consiste à dire, vous savez, attendons encore un petit peu, tout cela naturellement s'éteindra. Il y a une grande confusion qui existait en France, par exemple, dès les années 80 et qui perdure d'une certaine manière, qui consistait à dire, oh, ben, le phénomène Front National, c'est le poujadisme. Mais à une différence près, le mouvement Poujade est fondé en 1953, il envoie des députés à l'Assemblée nationale en 1956, mais en 1958, quand le général de Gaulle revient, il disparaît. Il disparaît, quasiment du jour au lendemain. Il n'y a plus rien. Là, nous avons des partis politiques qui représente une fraction relativement stable de l'électorat, entre 15 et 25%, sur quasiment 4 décennies. On peut quand même parier, de manière raisonnable, que ça ne va pas disparaître simplement en quelques années. C'est un phénomène qui, sans doute, va perdurer. Et puis ensuite, encore une fois, ils ont su rénover un logiciel qu'on pensait disparu. Et ça, c'est quand même, je crois, le fait majeur.
Extrême droite européenne vers une internationale brune. C'est entendu. Ils font rêver certains parce qu'ils ont su réinventer un idéal, comme nous l'explique Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Mais faut-il avoir peur d'une déferlante brune qui pourrait menacer l'équilibre fragile européen? Si ces extrêmes s'entendent sur la haine qu'ils partagent de cette Europe technocratique, ils n'en restent pas moins divisés, chacun chez soi et Dieu pour tous, tant que ce Dieu reste chrétien. L'Union européenne serait une force d'occupation aux mains d'une clique puissante et dictatoriale avec un K, dont l'objectif ne serait autre que la destruction des États-nations et l'enrichissement indécent des multinationales et des banques. C'est la guerre. Une guerre que se livrent les souverainistes, les localistes, contre les globalistes et les internationalistes. Malgré leurs divergences idéologiques et la diversité de leurs héritages historiques, ils se retrouvent désormais unis au sein de l'ENL, l'Europe des Nations et des Libertés, groupe parlementaire européen et parti politique présidé par Marine Le Pen. Enfin presque. Sur les 47 députés européens d'extrême droite, seuls 26 ont rejoint l'ENL, tandis que les 21 autres siègent parmi les non-inscrits. Leur faiblesse, Assurément, incapables de créer des coalitions solides, l'envergure de leur action reste limitée dans une institution tentaculaire qui fonctionne essentiellement sur la base de la négociation et du compromis. Ainsi, les eurosceptiques ne seraient pas la somme de leurs partis. Les égos, les problèmes relationnels et les divergences idéologiques semblent pour l'instant nous protéger. Pourtant, ils font comme si. Koblenz, 21 janvier 2017. Cette ville du nord de la Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, accueille les membres de l'ENL pour un congrès historique après la victoire de Donald Trump et le Brexit. C'est Frauke Petri, égérie de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui invite. La ville est en état d'urgence. Des centaines de policiers entourent le palais des congrès, protégeant les congressistes des manifestants, venus protester contre la tenue de cette réunion de famille. Certains journalistes ont été interdits de congrès. Les autres, maltraités et méprisés, ont eu leur sésame entre 5h et 7h du matin, puis parqués loin des participants. On est fliqué par un service d'ordre peu sympathique. La presse, on s'en méfie. Pas de quoi briser l'optimisme de Gerolf Heinmanns, député européen du Vlaamsbelang flamand et membre de l'ENL.
Vous l'avez vu, hein, il y a une conférence de presse avec 300 journalistes, au moins 40 ou 50 caméras de partout, donc je crois que c'est important, oui. L'année dernière, on était à Milan pour soutenir Matteo Salvini et nos amis de la Lega Nord. Et on se réunit parfois, on s'est réunis au stand une fois. On se réunit régulièrement pour faire le point, pour voir aussi des réunions de travail d'ailleurs. Mais ceci, c'est une réunion pour montrer qu'on a maintenant un axe franco-allemand. On l'a appelé un sommet européen alternatif. Et donc, on montre avec ces deux femmes fortes, on montre clairement qu'il y a une alternative. On est là pour se montrer ensemble.
Un nouvel axe franco-allemand serait-il en train de voir le jour ? Dimitri Ougart est l'attaché parlementaire de Gerolf Heinmanns. Et la tactique du cheval de Troie, il la pratique tous les jours.
En Flandre, c'est clair que les gens se sentent oubliés dans les villes, mais aussi dans la campagne. Donc, c'est la faillite du politique traditionnel de ne plus être entre les gens. On a vu ça aux États-Unis aussi, avec l'élection de Trump, où aussi son propre parti était plus ou moins l'élite de l'establishment. Et Trump, maintenant, a rompu cette image, mais le parti républicain a compris ça maintenant, je pense, au dernier moment. Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus être à côté du establishment. Les démocrates n'ont pas encore compris.
Marine Le Pen a fondé un groupe qui est devenu un groupe politique en 2015 qui s'appelle l'Europe des Nations et des Libertés. Pourquoi est-ce que le Vlaamsblok s'est inscrit aux côtés de Marine Le Pen? Parce que l'union fait la force, comme disent les Belges.
Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, l'union fait la force. On voit que tous ces partis, they become stronger and they grow in the whole of Europe. En Autriche, ils apportent presque 50% des voix pour le président. En Hollande, on a Geert Wilders, mais aussi plus loin, en Roumanie, on a accaparé un vieux socialiste qui voit le train qui passe. Et il veut halter aussi, il nous a joint. Et donc maintenant, on a l'AFD aussi. Il est devenu membre un peu plus tard. La groupe était formée, le ENL et l'AFD, Monsieur Pretzel nous a joint. Et donc, ils vont faire un beau score aussi, je pense, dans les prochaines élections contre Angela Merkel. La différence est que nous ne sommes pas l'extrême droite. Il y a des partis plus droitiers que nous, comme le Jobbik ou l'Aube Dorée, M. Corwin-Mikke et tout ça. On est droitier, on est conservateur, on est indépendantiste, nous. On est souverainiste. Et ça, c'est le ciment, le souverainisme. Le ciment aussi, c'est le projet commun, l'opposition contre l'Union européenne. Chaque pays peut suivre son propre voie. Donc, la collaboration est très étroite, mais on n'est pas des communistes. Hein. On a des idées différentes.
Alors, comment expliquer que des hommes politiques flamands, eurosceptiques, contre ces institutions européennes, finalement décident de s'engager dans des élections européennes?
Il faut lutter à l'intérieur des institutions. C'est comme nous sommes au Parlement belge aussi. Nous voulons la fin de la Belgique. Si un moment ça se passe, on sera là.
Hein. Alors, comment on œuvre à l'intérieur de ce Parlement? Il y a des dizaines et des dizaines de commissions, des dizaines de discussions sur tous les sujets. Comment on fait pour s'y retrouver à l'intérieur de ces institutions et de lutter justement contre ces institutions?
Monsieur Hanemans, il a choisi une commission particulière. C'est la commission d'affaires économiques et monétaires. C'est là qu'il trouve the weak point. C'est le euro. Hein. Il envisage la fin de l'euro. Et maintenant, avec le Brexit, on doit arrêter avec la monnaie pour tout le monde. Pour les régions et les économies trop différentes pour avoir un monnaie.
Jean-Yves Camus.
Dans l'enceinte du Parlement européen, de par le règlement de l'Assemblée, il y a des groupes parlementaires. Dans toutes les démocraties du monde, avoir un groupe parlementaire, ça donne à ceux qui y siègent des avantages sur les non-inscrits, comme on les appelle. Ça donne du temps de parole, ça donne des collaborateurs, ça donne une visibilité dans l'ordre des interventions, dans les débats. Et puis ensuite, il y a les partis transeuropéens. Parce que l'un des objectifs de l'unification européenne, c'est aussi d'avoir des familles politiques qui transcendent les clivages nationaux. Ça préexiste à l'Union européenne, l'international communiste, l'international socialiste. On est plus rétif chez les conservateurs et les libéraux traditionnels, surtout chez les conservateurs, à ce type d'alliance qu'on trouve un peu artificielle. Mais enfin, il y a aujourd'hui des partis transnationaux conservateurs, le PPE, un parti transnational libéral classique, évidemment un parti socialiste européen, une gauche unitaire européenne, et la même chose existe avec l'Alliance européenne pour la liberté, qui est la formation transnationale que certains partis autour du Vlaams Belang, du FPE, du Front National et de la Ligue du Nord notamment, ont formé. Alors toutes les formations de cette obédience-là n'en font pas partie, hein. Mais ça prouve quand même que ces partis sont à la fois très, très concurrents. Il y a des pommes de discorde. Parce qu'encore une fois, on traite de formations qui sont nationalistes. Donc c'est vrai que la question du Tyrol, du Sud-Tyrol par exemple, est une pomme de discorde sempiternelle entre Italiens et Autrichiens. Puis s'il y avait demain des élus populistes d'extrême droite dans la partie francophone de la Belgique, je pense que les faire travailler avec le Vlaams Belang serait quand même un peu compliqué. Mais malgré tout, on voit bien que... alors c'est pas l'international fasciste 1934, celle de Montreux, hein, qui n'était qu'un assemblage hétéroclite de formations qui travaillaient pas tant que ça en commun. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. On voit bien qu'il y a des liens structurels qui s'établissent entre le FPE et le Front National, de plus en plus, entre le parti de M. Wilders et le Front National, également, avec le Vlaams Belang. Il y a une habitude de coopération chez les Français et chez M. Wilders. Bref, il y a des choses qui se passent. Les partis nationalistes d'extrême droite est-européens vivent un peu leur vie à part. Alors certains sont des alliés encombrants. Hein. Marine Le Pen ne souhaite absolument pas siéger dans un groupe ou dans un parti où figurerait également le Jobbik hongrois, quand même une formation extrêmement radicale. Elle dit clairement aussi qu'elle ne souhaitait pas travailler avec les Grecs de l'Aube Dorée, par exemple. Mais peut-être qu'avec le temps, certains seront intégrés à cet ensemble plus large.
Et notre prochain orateur a posé le doigt précisément sur un point névralgique avec son slogan électoral « Basta Euro ». Parce que l'euro nuit terriblement à l'Italie, pays dont le cadre politico-financier a été tellement contraint. Oubliez donc le plus mauvais étendard de l'Italie, ce faux monnayeur de Mario Draghi. Saluons plutôt un Italien qui respecte son pays. Saluons maintenant Matteo Salvini.
Merci à Frauke Petri et à l'Allemagne. Merci pour avoir organisé cette rencontre historique. Je souhaite surtout une collaboration fructueuse du groupe Europe des Nations et Liberté. Nous pouvons dire avec enthousiasme qu'un pari a déjà été gagné. Il y a 3 ans, on aurait parié que tout serait perdu pour l'Europe et ses peuples. Aujourd'hui souffle un vent de liberté dans le monde qui touche tous les citoyens pauvres. Good luck and good job, Mr. Trump.
Dans le nord de l'Italie, c'est jour de vote. Députés, supporters et idéologues estampillés Ligue du Nord sont présents, comme Paolo Becchi, universitaire aux allures de professeur Tournesol, idéologue du mouvement 5 étoiles et proche de Matteo Salvini, l'homme fort de la Ligue.
Les problèmes que nous avons aujourd'hui sont uscita immediata dall'euro, prima che altro che l'Islam, prima
che... Moi, là-dessus, je suis très clair. Je pense que les vrais problèmes sont le problème de la monnaie unique, bien évidemment, et puis du contrôle de l'économie sur certains pans sociaux. Donc, il faut se baser sur les vrais problèmes, et le vrai problème, c'est l'OTAN, et c'est l'Union européenne et l'euro.
D'où votre rapprochement avec Matteo Salvini et la Ligue du Nord?
Il mio tentativo attuale, e non so se avrò successo o meno, è quello di spostare la Lega su una posizione sovranista identitaria che è già presente nello spirito di Salvini, ma che non è ancora.
En réalité, le parti de la Ligue du Nord est né avec le principe indépendantiste. C'est un principe qui, à l'heure actuelle, n'est pas en accord avec la réalité du pays. En fait, la vraie indépendance, ça serait l'indépendance non pas du Nord et de la Padanie, comme le voulait la Ligue du Nord, mais la réelle indépendance de l'Italie.
Poi poteva andare a parare nel secessionismo.
Milio est un politologue qui a insufflé la première philosophie, entre guillemets, en tous les cas, la ligne politique de la Ligue du Nord, qui était donc indépendantiste, séparatiste. Et il faut élargir le concept. Donc, son idée, c'est pas forcément de revenir sur certains concepts qu'a introduit la Ligue, mais de l'adapter à une situation actuelle qui est plus nationale.
Comme se la poneva Miglio negli anni 90, oggi mi pongo il problema dell'indipendenza dell'Italia. Perché noi ormai siamo schiavi di questa Unione Europea e dell'euro.
Donc ce que je voudrais en tant que philosophe, c'est participer à une refonte de la pensée de la Ligue du Nord sur un problème plus national et donc avec ce problème central de la souveraineté. Donc j'aimerais qu'on introduise le concept de souveraineté identitaire. Avec évidemment comme point d'accroche la lutte contre la monnaie unique, mais pas uniquement, également le fait de pouvoir développer sur le territoire entier une politique que nous avons développée au départ, en tous les cas que la Ligue du Nord a développée pour le nord de l'Italie. Donc une ouverture vers le pays avec ce concept.
Le contraste politique du futur, probablement non seulement en Europe,
le vrai clivage politique ne sera pas entre la droite et la gauche, mais entre les souverainistes et les
globalismes.
Mais la globalisation, c'est pas simplement l'Occident qui pénètre les autres pays, comme certains l'ont pensé pendant des années. On n'en est pas là.
Richard Reichmann, ethnopsychiatre.
La globalisation, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de populations dans le monde entier qui aspirent à un même niveau de liberté individuelle et collective, et qui sont capables de se prendre cela. Et vous avez de plus en plus de mouvements qui sont des mouvements globaux, non locaux. Et donc c'est ça, c'est par exemple les mouvements de la place publique, ce sont des mouvements qui sont issus d'un phénomène global, c'est-à-dire une aspiration collective à une amélioration des conditions de vie pour soi, ses proches, ses voisins, ses amis, les gens qu'on ne connaît pas. C'est du global, c'est justement pas le local qui, lui, à l'inverse, dit, nous ne sommes bien que dans nos frontières, donc on produit quelque chose pour la population qu'on connaît, et les autres, supposés inconnus, on les rejette. Et vous avez là, me semble-t-il, une conflictualité très forte, que malheureusement, ceux qui sont censés avoir le monopole du discours politique n'ont toujours pas saisi, et le pensent comme... Grosso modo, les choses se passaient pendant les années 70.
Comment est-ce qu'on peut créer un parti sur la seule idée de la souveraineté et sur la seule idée de l'immigration?
Dunque, e questo è un problema. Potrebbe sembrare.
Le concept d'État-nation, qui est enfin de périclité, ne veut pas dire que parce qu'il a périclité dans un certain moment de l'histoire, ne doit pas revenir. En fait, l'idée, c'est qu'on est actuellement dans une globalisation qui nous fait découvrir la fin d'un moment de l'histoire, mais cette fin peut être un renouveau parce que la situation l'impose maintenant. Donc il y a certains écrits qui nous l'apprennent dans l'histoire. Il y a deux philosophes, c'est Giambattista Vico, qui est un philosophe italien, et Fukuyama, ce continu retour vers l'histoire, cette lecture nous permet de dire que finalement l'État-nation n'est pas caduque, n'est pas obsolète. Donc la souveraineté, qui est le principe même de l'État-nation, finalement peut retrouver une certaine énergie au vu de la situation actuelle.
Nous ne nous soumettrons pas à la peur. Nous ne nous soumettrons pas à l'intolérance. Nous ne nous soumettrons pas aux extrémismes.
Nous ne nous soumettrons pas à la peur, à l'intolérance et aux extrémismes.
Nous nous battrons main dans la main, pacifiquement, pour la démocratie.
Wir werden friedlich, Hand in Hand, für die Demokratie kämpfen.
Nous sommes libres, égaux et frères et sœurs. Vive l'Europe et vive les peuples d'Europe, du monde.
Wir sind frei, gleich und Brüder und Schwestern. Es lebe Europa und die Völker der Welt.
Devant le palais des congrès de Koblenz, l'ambiance s'échauffe dans les rangs des opposants à l'ENL réunis en conclave. Tandis qu'ils promettent de résister, Markus Pretzel, membre de l'AFD, compagnon de Frau Köpetri et monsieur loyal de circonstance, continue à s'autoglorifier et à cracher son fiel devant une assistance convaincue. Et sur quel ton ?
Die Herrschaften, die da draußen demonstrieren, sie haben zu verantworten das Versagen des Schengen.
Les gens qui manifestent dehors sont responsables de cet échec. Ils sont responsables de l'échec de l'euro. Ils sont responsables du fait que la politique étrangère n'existe plus au niveau européen, qu'elle est devenue une parole creuse, qu'il ne peut plus y avoir de véritable discours sur la politique de défense. Parce qu'ils veulent trop d'intégration et les nations s'y opposent à juste titre. Nous devons discuter, oui, nous devons aussi négocier, et sans doute devrons nous-mêmes faire des compromis. Mais cette Europe initiée par Hansi Strache, par Geert Wilders, Marine Le Pen, Matteo Salvini et Frauke Petri sera meilleure. Nous voulons une Europe des citoyens et pas une Europe des bureaucrates. Nous voulons une Europe de la démocratie et pas des commissions. Nous voulons une Europe de la transparence et pas des antichambres de Bruxelles. Mesdames et messieurs, c'est un moment merveilleux que d'être réunis ici aujourd'hui en Allemagne, justement en Allemagne. Et je sais que nos amis européens ont dû attendre longtemps que quelque chose se passe en Allemagne. Nous devons saisir cette chance, et je le dis tout à fait sciemment. Nous devons faire de la réelle politique. Nous devons rester réalistes sur ce que nous voulons, sur ce que nous visons, et tout particulièrement sur ce que nous disons et faisons. Je vous remercie. Vous pouvez vous réjouir d'écouter les prochains orateurs qui vont vous brosser cette nouvelle Europe. Bienvenue à la nouvelle Europe.
Nächsten Gast, Geert Wilders.
Hallo Deutschland.
Salut l'Allemagne, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien. Hier, une Amérique nouvelle. Aujourd'hui, Koblenz. Et demain, une Europe nouvelle. Et ce pourquoi vous vous battez est extrêmement important. Pas seulement pour l'Allemagne, mais pour l'Europe entière. L'Europe a besoin d'une Allemagne forte, une Allemagne consciente d'elle-même, une Allemagne fière. Une Allemagne qui se positionne pour sa culture, son identité et sa civilisation. L'Europe a plus besoin de Frauke que d'Angela.
Depuis Koblenz, l'enthousiasme s'est quelque peu dégonflé. Markus Pretzel et Frauke Petri ont perdu de leur splendeur au sein de l'AfD, tandis que Geert Wilders n'a pas réussi la percée qu'il attendait aux dernières élections législatives de mars 2017. Richard Reichtmann.
C'est pas simplement des réalités qu'on ne veut plus entendre, ce sont aussi des dénonciations que l'on ne s'autorise plus. Alors, seuls les partis d'extrême s'autorisent un certain nombre de dénonciations, les autres disent... Je caricature, pardonnez-moi, mais c'est important parfois de caricaturer pour saisir le sens. C'est pas bien, mais on peut rien y faire. C'est franchement pas un discours qu'on peut entendre. C'est pas bien le dumping social, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien d'avoir des travailleurs étrangers qui coûtent beaucoup moins cher et qui font... C'est pas bien, mais on peut rien y faire. Non, il faut effectivement trouver des solutions pour répondre à ces questions-là, démocratiquement, et en inventant de nouveaux discours qui ne soient justement pas ceux de l'extrême droite. Si effectivement un certain type de discours, comme les discours syndicalistes des années 70, ne passe pas dans la population ou dans l'entreprise, parce que l'entreprise fonctionne autrement, que les techniques de management sont différentes, et que finalement l'entreprise a réussi à briser les liens collectifs des uns et des autres, ça ne veut pas dire que l'entreprise est intouchable. Ça veut simplement dire qu'il faut réinventer de nouvelles formes d'action politique, ce que les populations ont très bien compris. Parce que la réponse à l'extrême droite, on la voit très clairement. On la voit dans la rue, mais pas dans la rue telle qu'elle est manipulée par des chefs, dans la rue telle qu'elle a été reprise par un certain nombre de groupes sociaux, je pense. Au printemps arabe, bien sûr, je pense aux indignés. Alors, ils n'ont pas réussi, on nous dira... Oui, mais c'est sur la longue période que ça se calcule, une réussite. Et vous avez une émergence démocratique très forte qui n'empruntent pas le chemin des partis politiques, ça ne veut pas dire qu'il les décrit, ça veut dire qu'elles n'empruntent pas ce chemin-là, qui sont en train de constituer des nouveaux univers d'action politique et démocratique qui ne sont pas fondés sur des différences de classe, mais qui vont être autour de l'écologie, autour de la façon de vivre, autour d'un communautarisme là qui ne repose pas sur une identité commune de couleur de peau et autres, et qui sont très puissants, très attaqués. Alors il y a de plus en plus de travaux de chercheurs qui réfléchissent maintenant, qui essaient de comprendre comment on peut non seulement analyser ces mouvements de la place publique, mais leur accorder le poids démocratique qu'un certain nombre de partis n'ont plus et qui est, à mon sens, une des meilleures réponses à l'extrémisme, qu'il soit nationaliste ou qu'il soit purement fasciste.
Comment expliquer que le FPO, l'AFD, la Ligue du Nord, tous ces mouvements d'extrême droite se retrouvent au sein de l'Europe des Nations et Libertés? Parce que finalement, tous ces partis prêchent pour leur chapelle. Qu'est-ce qui unit tous ces partis d'extrême droite européens?
Ce qui les unit, c'est la volonté de
Jérôme Segal
tirer profit des possibilités qu'offre le Parlement européen. Par ailleurs, ça peut être important pour eux d'échanger sur les modalités du Brexit, sur voir comment on peut déconstruire l'Europe de l'intérieur. Donc ces partis-là, d'ailleurs, ne sont pas vraiment anti-européens. Je pense que personne n'est anti-européen. Eux, ils sont pour une Europe des patries, c'est le terme officiel qu'ils utilisent. De même que d'autres sont pour une Europe des travailleurs, une Europe des entrepreneurs, etc. Donc je pense que tout le monde est pour une Europe. Et ce groupe parlementaire au niveau européen est l'occasion de mise en réseau, d'échanges qui sont quand même assez importants pour eux.
Et pourtant, tous ces partis sont eurosceptiques.
Ils sont sceptiques peut-être par rapport à l'orientation actuelle de la Commission européenne, mais ils pensent que l'Europe des patries doit être en marche, qu'il faut respecter les langues régionales aussi, respecter les identités particulières. Il y a par exemple en Italie le Tyrol du Sud qui est germanophone. Et là encore, on utilise l'Europe pour faire valoir les droits des Européens à respecter leur identité régionale, locale. Donc il n'y a pas d'euroscepticisme officiel, mais il y a une critique de l'Europe telle qu'elle est actuellement.
Alors aujourd'hui, vous êtes électeur du FPO, donc soutenez Harald Wilimski, député européen. Le FPO aujourd'hui est membre de l'ENL, l'Europe des Nations et Libertés, présidé par Marine Le Pen. Ça vous dérange pas de voir que le FPO, au niveau européen, est affilié à l'Europe des Nations et Libertés, qui regroupe, alors même s'il le refuse, cette appellation, les partis d'extrême droite européennes?
Nein.
Achim Ertel, membre du FPO.
Ich habe bei der letzten Wahl die ÖVP gewählt und auch den Herrn, Ottmar Karas, der vielleicht.
Alors non, c'est pas un problème pour moi, ce groupe. J'ai voté FPE, mais en fait, ce que je vois et ce qui est pour moi très important, c'est que l'Europe a fait face l'an dernier à deux problèmes importants. D'un côté, la Grèce, et de l'autre côté, le problème des migrations. Et ce sont pour moi des problèmes existentiels. Et dans les deux cas, l'Europe n'a pas été en mesure de présenter des solutions satisfaisantes. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout contre l'Europe, mais je suis pour des réformes dans l'Europe. Et là, voilà, on est amené à une situation où on doit faire des choix.
Pensez que c'est possible depuis que l'Europe des Nations et Libertés s'est constituée comme groupe politique à Bruxelles? Vous pensez que c'est des thématiques qui sont audibles à Bruxelles?
Ja, es geht weiter.
Johann Stürz, député du FPÖ.
Es geht so weit, dass durch diese Gruppe, wie Sie das nennen, welche diese Themen klar anspricht und auch natürlich darauf aufmerksam macht, warum gibt es in Burgenland Schwierigkeiten, dass das schon unterstützt wird von einem Bundeskanzler Kern zum Beispiel. Also das heißt, auch unser Außenminister Kurz, desto mehr wir aufzeigen, auch wenn man das populistisch erscheinen lässt, desto mehr wir aufzeigen, desto mehr kann
man... En fait, ça va même plus loin qu'avec ce groupe parlementaire, l'ENL. Les problèmes qu'on dénonce, nous, ce sont des choses qui sont reprises même par notre chancelier Kern, social-démocrate, ou par le ministre des Affaires étrangères, Kurz, qui parfois s'exprime de façon un peu populiste, qui lui est chrétien conservateur. Ça montre qu'on a raison de vouloir ces changements et que ces changements sont sûrement possibles.
Pourquoi c'était une nécessité d'exister au sein d'un groupe parlementaire à Bruxelles, sachant que finalement l'Autriche n'est pas la France et que l'Autriche se porte bien économiquement. Il y a une forte croissance par rapport à la France, il y a très peu de chômage par rapport à la France. Qu'est-ce que vous reprochez finalement à l'Europe, puisque l'Autriche bénéficie des subsides européennes et que finalement l'économie autrichienne va bien?
Ja, das ist wieder eine Frage. Das ist eine Frage des Standpunktes.
Johannes Hübner, député du FPÖ à Vienne.
Also erstens einmal, dass Österreich von der Europäischen Union profitiert.
La constitution de ce groupe, l'ENL, le groupe de l'ENL à Bruxelles, en fait, c'est quelque chose qui est naturel. De dire si l'Autriche a profité ou pas de l'Europe, ben en fait, c'est une question de point de vue. D'abord, il faut rappeler que l'Autriche est un pays qui paye plus qu'il ne reçoit de l'Europe. On paye deux fois plus que ce qu'on reçoit de l'Europe. Évidemment, ce n'est pas le seul critère pour décider si c'est bien ou pas de faire partie de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais le problème a commencé, je pense, avec les critères de Maastricht, avec ensuite le traité constitutionnel de Lisbonne. La zone euro a créé aussi, il y a eu des conséquences absolument catastrophiques, pas tant pour nous, mais pour le sud de l'Europe, la moitié de l'Europe à peu près au sud. Ça a vraiment créé de véritables problèmes.
Gruppe sind, die der Zentralisierung der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen, in allen Facetten. Von den einen, die sagen, diese Europäische Union ist unsanierbar und unreformierbar hinaus.
En fait, l'ENL, c'est un groupe qui rassemble différents mouvements qui ont une attitude critique par rapport à l'Union européenne. Cette critique ne s'articule pas forcément toujours de la même façon. Pour le Front National et peut-être aussi Geert Wilders, c'est l'idée que c'est impossible, que c'est pas réformable. Nous, au contraire, on est plutôt pour demander une re-régionalisation du pouvoir européen, une réduction aussi de l'importance de la Commission européenne, peut-être au statut qu'avait la Commission avant Lisbonne.
Religion macht, ja, die einfach axiomatisch vorgibt, das höchste Ziel ist das Wachstum, die Vertiefung und die Zentralisierung der Europäischen Union.
Si je peux reprendre une image, je dirais qu'on est un peu comme des athées européens, c'est-à-dire qu'on refuse la religion européenne, la doxa, cette axiomatisation selon laquelle on doit a priori de toute façon favoriser la croissance et pas forcément s'intéresser aux besoins des Européens. Et nous, pour nous, ce qui est important, c'est que les gens puissent se sentir mieux dans tous les pays d'Europe.
Alors finalement, ce qui vous rapproche au sein de l'ENL, c'est vos différences.
Das ist nicht richtig, sondern es vereinigt uns das, was wir gemeinsam wollen und wo wir einen gemeinsamen Nenner haben. Und das sind, wie gesagt, da ist eine europäische.
Alors, on est ensemble au niveau européen dans l'ENL parce qu'on a des buts communs qui concernent des questions qui sont vraiment européennes. Des questions par rapport à la centralisation qu'on refuse, la souveraineté qu'on espère retrouver, que ce soit au niveau national ou régional, parfois même jusqu'à la sortie de l'Europe.
Was uns hier vereinigt auf europäischer Ebene, ist aber, dass wir sagen, die jetzige Entwicklung fährt Europa gegen die Wand.
En fait, ce qu'on veut dire, c'est que l'Europe telle qu'elle est maintenant, elle va droit dans le mur. Et donc, on dit qu'il faut faire stop, il faut s'arrêter.
Für das Zentrum, die muss gestoppt werden. Es hat sich leider herausgestellt, ich muss sagen, selbst leider, es wäre schön, wenn das geklappt hätte mit der Europäischen Union, dass sehr viele dieser Dinge
nicht. En fait, on n'est pas dans les croyances, on n'est pas les religieux de l'Europe qui vont accepter le dogme de la Commission tel qu'il est actuellement. Nous, on est plutôt pour l'empirisme, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, ce qui se fait. On pensait que, voilà, il suffisait que des pays soient pendant 20-30 ans ensemble pour qu'ils deviennent efficaces, pour que les États arrivent aussi au même niveau d'efficacité, même chose pour les travailleurs, qu'ils aient à peu près le même niveau d'efficacité, de rendement. Et on voit que ce n'est pas du tout le cas, puisque dès que c'est possible, les gens bougent entre les pays, qu'il y a également des fuites de capitaux.
Experimentierlabor Italien gesehen haben auf europäischer Ebene. Italien ist jetzt 150 Jahre ein Einheitsstaat, ein stark durchzentralisierter Einheitsstaat mit
En regardant le cas du Portugal ou de la Grèce, les problèmes n'ont fait que s'accentuer. Et si on prend le cas de l'Italie, c'est un véritable laboratoire à taille nationale. On a là un pays qui existe à peu près sous sa forme actuelle depuis 150 ans, avec une seule religion, etc. Mais en fait, ils ont pris le modèle d'un centralisme absolu tel qu'il existe en France. Ce n'est qu'à partir des années 90 où il y a eu une petite évolution au niveau des développements différents selon les provinces. Ce point de vue centraliste ne suffit pas. Au contraire, il faut une évolution beaucoup plus forte. La lire, la monnaie commune entre le Nord et le Sud n'a pas permis non plus aux industries du Nord de descendre dans le Sud. Les industries restent toujours dans le Nord de l'Italie. Donc ce constat, on le partage avec nos amis néerlandais et français. Et encore, j'ai même pas besoin de parler d'un sujet comme l'immigration. Là aussi, on a des positions communes parce que on est pour une attitude réaliste. On pense qu'il y a des mesures absolument drastiques qui doivent être prises par rapport à ces problèmes.
Qu'est-ce que fait Harald Wilimski en compagnie de Marine Le Pen, en compagnie de Nigel Farage, qui sont tous des eurosceptiques? Wilimski appartient à un groupe parlementaire européen eurosceptique, dont la plupart des membres souhaitent quitter l'Europe.
Je ne sais pas vraiment ce que Wilimski fait avec ces gens-là, mais je dois dire que, en fait, c'est pas quelque chose de très important. On peut évidemment nous le reprocher, hein, je l'entends bien, mais en Autriche, on s'intéresse pas tellement pour ce qui se passe au niveau européen. Et puis, on a ce petit mot d'esprit qui dit, si t'as un grand-père qui t'embête, tu l'envoies siéger à l'Europe.
Harald Wilimski. Danke sehr, danke.
Merci beaucoup pour votre intérêt. Je représente aujourd'hui Hans-Christian Strache qui est à Washington pour l'investiture de Donald Trump, pour mener des discussions importantes avec les députés du Congrès, les sénateurs et autres personnes influentes et sceller des alliances bénéfiques.
Nous quittons Koblenz et l'ENL en laissant Harald Wilimski, membre du FPE et député européen de l'ENL, à ses espoirs. Direction Varsovie en Pologne, où nous retrouvons Zloty, jeune militant d'extrême droite et propagandiste de la coalition pour la restauration de la liberté et de l'espoir pour la République. Pourquoi est-ce que Janusz Korwin-Mikke n'a pas rejoint le groupe parlementaire de Marine Le Pen?
Je me souviens qu'au début, cette coalition était toxique. Nous voulons nous allier avec Nigel Farage. Un des députés de notre parti, Ivaskevich, était déjà avec Farage, mais Marine Le Pen ne voulait pas de Korwin-Mikke. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle a utilisé les mêmes arguments que pour son père, qui était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Il avait une voix et n'était pas forcément très délicat dans sa façon de parler, comme Janusz Korwin-Mikke. Il parle comme il pense, il est direct et dur, et c'est pour ça qu'on a peur de ce qu'il peut dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, puisqu'au Parlement européen, nous pouvons prendre la parole tout le temps. C'est une bonne chose. Nous avons un député dans le camp de Nigel Farage et un autre totalement indépendant qui peut dire ce qu'il veut.
Vous pensez que les autres députés européens ont peur de Janusz Korwin-Mikke?
Certains savent que Janusz Korwin-Mikke est indépendant et qu'il peut parler de tout quand il le souhaite. Et ils l'aiment bien. Ils sont de plus en plus nombreux à l'apprécier. Il est invité dans différents pays. Par exemple, l'ambassadeur d'Iran vient de l'inviter à venir dans son pays parce que Janusz Korwin-Mikke est un militant des droits iraniens.
They like him for this statement, and a lot of members of the parliament have the same view, but they.
Et donc, on l'aime bien pour ses prises de position. Certains parlementaires européens le soutiennent, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils appartiennent à des groupes parlementaires et qu'ils ne sont pas indépendants.
Pourquoi est-ce qu'il est important d'infiltrer les institutions européennes?
Est-ce que vous pouvez imaginer un parlement sans opposition? Nous sommes cette opposition.
Alors expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas voulu faire partie de l'ENL, le groupe parlementaire de Marine Le Pen.
Bien, Marine Le Pen est trop national-socialiste. Moi, je ne suis pas nationaliste. Si, bien sûr que je le suis un peu. Mais je ne pense pas que le nationalisme doit être le sujet le plus important. De plus, je déteste le socialisme. Je hais les socialistes comme Hitler ou Obama. Tous les socialistes sont mauvais. Et la place qui leur conviendrait le mieux, c'est au bout d'une corde attachée à la branche d'un arbre.
Vous pensez qu'elle est trop socialiste ?
Hitler était trop socialiste, bien sûr. Oui, elle l'est trop. Son père, le vieux Le Pen, était... Ok, alors, vous posez la question de Marine Le Pen. Monsieur Jean-Marie Le Pen était...
Allô. Okay. Jean-Marie Le Pen.
Bien, Jean-Marie Le Pen. Il était conservateur dans ses valeurs, mais il prenait une économie libérale avec une dose de nationalisme, puisque son parti s'appelle le Front National. Mais aujourd'hui, sa fille a transformé le Front National en parti socialiste, en fait. Elle parle beaucoup d'aide sociale et je trouve ça très dangereux. Parce que ça dit aux gens qui ont été trahis par les socialistes que Marine Le Pen aussi leur promet des aides sociales. C'est très dommage pour la France et aujourd'hui, moi je préfère M. Fillon. Bien sûr qu'il ment en disant qu'il est conservateur alors qu'il ne l'est pas. Mais au moins il ment bien. Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Ça c'est une autre question, surtout quand il dit que le socialisme n'est pas bien.
Alors pourquoi ne pas avoir réussi à vous accorder avec Marine Le Pen?
J'aurais pu participer à une coalition avec Maréchal Le Pen, mais pas avec Marine Le Pen. Marine Le Pen est national-socialiste. Je peux survivre au socialisme, mais pas au national-socialisme. Tout le monde est plus ou moins nationaliste, mais je ne crois pas que la nation soit la chose la plus importante au monde. On ne peut pas tuer au nom d'une nation, ce n'est pas vrai. En plus, ils sont nationaux-socialistes, ce qui est rédhibitoire. Je me suis battu contre le socialisme, vous savez. À chaque fois que j'entre dans le Parlement européen, j'arrive par une porte qui s'appelle Altiero Spinelli, qui était un communiste. Nous en avons fini avec le communisme. Ce n'est pas pour en subir un nouveau imposé par Bruxelles. Je hais tout ça.
Milton Friedman...
L'économiste Milton Friedman, en 1970, était allé à la bibliothèque du Congrès pour consulter un ouvrage sur le programme du Parti communiste américain dans les années 20. Il a été choqué de voir que la majeure partie de leur programme avait été mise en œuvre aux États-Unis. Hillary Clinton n'est pas communiste, elle est trotskiste, à la gauche des communistes, et son challenger, Comment s'appelle-t-il déjà? Oui, Sanders. Typique de ce qu'on trouve en Galicie, en Pologne. Plein de gauchistes juifs, intellos. Absolument typiquement trotskistes. L'idée qu'un type pareil ait eu le pouvoir aux États-Unis, s'il avait battu Clinton, il aurait pu battre Trump. Vous imaginez le choc? Ce n'est pas la Russie. La Russie n'est pas aussi conservatrice. Ce n'est plus un pays communiste. Personne ne s'en rend compte. Les communistes sont aux États-Unis et pas en Russie. Ces juifs qui étaient bolcheviques ont commencé sous le règne de Staline. Il les a virés de Russie et ils sont partis aux États-Unis. Et maintenant, ils construisent le socialisme aux États-Unis. Tous des enfants et des petits-enfants de bolcheviques de Russie.
Hello? Hello?
Alors, socialiste, c'est évidemment quelque chose qui serait hurlé à la fois les députés frontistes et ceux du Vlaams Belang, et puis aussi quelques-uns au FPE.
Jean-Yves Camus.
Mais par contre, qu'il y ait une différence fondamentale entre la volonté du Front National d'incarner aujourd'hui un électorat, enfin des couches populaires de l'électorat, qui se sentent précarisées et qui veulent non pas la disparition de l'État social, non pas la disparition des garde-fous que la puissance publique peut poser, mais au contraire leur maintien, voire leur renforcement. Et ça, c'est parfaitement vrai. Corvin Mikkey, lui, est sur la pente inverse, si j'ose dire. Tout démantelé. Mais en même temps, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il est complètement pris à revers et complètement marginalisé par Droit et Justice, le parti de M. Kaczynski, qui vient de mettre en œuvre une réforme qui prend à rebours et les libéraux, et les conservateurs, et les sociodémocrates, qui est de mettre l'âge de la retraite à 60 ans. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, Corvin Mikkey a raison, il faut travailler, j'allais dire, jusqu'à ce que mort s'en suive pour un salaire de misère, il faut renforcer la protection sociale et il faut arrêter de travailler plus tôt. Donc, d'une certaine manière, le choix de Corvin Mikkey, en termes même de politique intérieure polonaise, est un choix de marginalisation.
Merci à Gerolf Hanmans, Jean-Yves Camus, Richard Reichtmann, Simon Clavière, Jérôme Segal, Janusz Korwin-Mikke, Zloty, Achim Hertel, Johannes Hübner, Paolo Becchi et Dimitri Ougart. Extrêmes droites européennes vers une internationale brune. Réalisation Doria Zénine, mixage Alain Joubert, attaché de production Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Levkovitch et Doria Zénine pour la série documentaire. Mais sans doute que le dernier mot de cette série devait revenir à François Mitterrand, qui le 17 janvier 1995, devant le Parlement européen, déclarait ceci.
Vous êtes nombreux à garder l'enseignement de vos pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations, la présence de la mort, tout simplement par l'inimitié des hommes d'Europe entre eux. Il faut transmettre, non pas cette haine, mais au contraire, la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, eux-mêmes ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle, le plus souvent, ont eu l'audace de concevoir ce que pourrait être un avenir plus radieux, qui serait fondé sur la réconciliation et sur la paix. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre.
Militant, électrice, abstentionniste, hésitant ou convaincu, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour achever de vous convaincre, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour les jours d'après ou nous réécouter dimanche, le bulletin à la main, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et sur cette même page, pour continuer à scruter les extrêmes, un lien vers Tenk, notre partenaire, formidable plateforme du documentaire d'auteur qui vous permet de visionner pendant 2 semaines The Horse, un documentaire de Charles Burnett. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et sur Twitter. Et la semaine prochaine, nous irons tendre l'oreille du côté du Portugal en nous souvenant de la révolution des œillets il y a 43 ans.